nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Ils le prennent. L'oncle lui dit, « Que se passe-t-il ? » Eric lui dit, « Tu n'es pas mon oncle. Pourquoi tu dis ça ? » ?»«
Parce que j'en sais rien. Mais j'en ai assez, j'étouffe. »
L'oncle lui tend la main. Il lui prend le bras. Eric se dégage.
« Laisse-moi !»
L'oncle fait, « Je comprends. »
Ils sortent de l'ascenseur, ils arrivent dans le hall.
Ils sortent de l'allée. Ouvre la portière de la voiture.
Tu rentres.
Eric entre boudeur. L'oncle entre aussi. Et met la voiture en route. Ils roulent sans se parler. Arrivés au lycée, ils se quittent sans un mot. Le soir, à la sortie du lycée, son oncle n'y est pas. Il rentre seul. À son immeuble, il
sonne à l'interphone. L'oncle lui ouvre. Il a ouvert aussi l'appartement, la porte de l'appartement. Il entre.
Et l'oncle lui dit, j'ai réfléchi. Je crois que tu as raison. Je me comporte avec toi comme si c'était un enfant. Mais ça va changer. Tu vas être plus libre. Mais n'oublie pas une chose. C'est que tu as eu un grave accident et que tu dois faire très attention. Voilà. Tu vas aller à l'école seul et tu reviendras aussi seul. Merci. L'oncle lui demande, est-ce vrai que tu n'as aucune affection pour moi? Eric lui dit, j'y suis pour rien. L'oncle lui dit, ça m'attriste beaucoup. Parce que moi, je t'aime bien. Monté lui dit, je sais pas, j'ai l'impression que tu n'es pas mon oncle et que je vis un rêve d'un autre. Un peu comme une histoire fantastique. Et puis j'ai l'impression que ma tête va exploser. J'apprends trop de choses qui ne sont pas de moi. Donc lui dit, je comprends. Tu dois avoir besoin de te reposer. Ça viendra tout seul. Le soir, il prend toujours ses comprimés, on lui met toujours ses récepteurs. La nuit, ses rêves de son ancienne vie lui viennent de plus en plus précises, mais il n'en parle pas. Son oncle est plus discret, mais Eric sent qu'il le surveille. Il voit que l'on touche à ses affaires dans sa chambre, que l'on ouvre son cartable. Il ne dit rien. Lorsqu'il est seul pour le trajet qui le ramène chez lui ou qui l'amène au lycée, il sent une présence. Il ne voit pas, mais il sent. Il n'en parle pas et fait celui qui ne sait rien. Il essaye pourtant d'être gentil avec son oncle, l'aide pour les choses de la maison, lui parle poliment, et les jours passent. Après-midi, l'oncle va
à la clinique Jeune Tout Pontois. Il va au bureau du directeur.
Il appuie sur le bouton de la porte. Le voyant vert s'allume. Il entre. Monsieur Blandin, le directeur de la clinique, un homme grand, mince, cheveux châtains, lunettes métal, 35 ans, blouse blanche, dessus un costume bleu roi. Il est demandé à me voir, monsieur Lavie. Oui, monsieur le directeur, venez vous asseoir. Il va s'asseoir face au bureau.
Je vous écoute. Lavie lui dit, c'est au sujet de Serge Leduc que je crains que malheureusement la greffe de la nouvelle personnalité ait été ratée. Que faut-il faire?
Le directeur soupire et lui dit, nous pouvons l'éliminer au recyclage. L'éliminer, de toute façon, il nous est d'aucune utilité.
Lavie lui dit, sauf si nous voulons nous en servir pour éliminer Mademoiselle Lair.
Le directeur ouvre ses épaules et lui dit,
ça peut se faire d'une autre façon. Écoutez, je vais en parler au conseil et je vous le dirai. Continuez comme d'habitude, après nous verrons. Surveillez-le de près.
Bien, monsieur le directeur.
Les jours passent. Un soir, Eric, après ses cours, va à Bourg-la-Reine, va voir une maison. Cette maison l'attire. Il entend des voix, des visages. Il s'en retourne, bouleversé.
Rentré chez lui, il va dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, une idée lui vient. Il prend un cahier neuf, qui est sur la table de son bureau. Un petit cahier d'écolier tout simple, un cahier de brouillon, comme on disait. Il s'assoit pour écrire.
Il se met à écrire, cela lui fait du bien. Il cache son cahier dans son pantalon de pyjama pour dormir, et la journée toujours sur lui. Il écrit avec fougue, chaque fois qu'il en a le temps. Il écrit en marchant, pendant les cours, pendant les pauses, dans sa chambre, la nuit.
parce qu'il dort de moins en moins. Il devient taciturne, parle de moins en moins, ne s'occupe de rien. Son oncle lui demande de temps en temps « Ça va ?» Il dit « Oui, rapidement, comme ça, sans y penser. » Ses notes au lycée ne sont pas très bonnes. S'il n'était pas le neveu de l'ami du directeur, il aurait été mis à la porte. Ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais ça ne l'intéresse pas.
Bien, installez-vous vite là.
Parce qu'il se dit que ce n'est pas lui. N'a aucun contact bien avec les autres élèves.
Bonjour à
sa
tous.
Sa femme aimerait lui parler, mais lui...
Alors, je dirais pas que le compte à rebours a commencé, mais le bac, c'est comme une espèce de...
Les faits plutôt dégagés.
Alors, je dirais jour J, moins 280.
Même les filles sont attirées par lui, mais lui ne le voit pas et ne veut pas.
Monsieur Régis, trois fois que... C'est ce qu'il reste à faire. Bon, alors cette année, on va parler.
Le directeur a dit au proviseur qu'il avait eu une très grande maladie.
Très plaisir.
Il fallait être patient.
Oui.
Les autres élèves le prennent pour un pédant. Fait faux cul.
Vous allez bien? Très bien.
Celui qui se prend pour un écrivain.
Voilà.
Certains disent.
Donc cette année,
voilà le Rimbaud.
C'est très important pour vous que les mathématiques ont un fort coefficient.
Il le voit toujours avec ce cahier de brouillon. En train d'écrire.
La semaine de cours entre les révisions.
Le cahier est devenu une chose informe, froissée.
Quand même encore quelques traces, quelques souvenirs.
Les feuilles
péniblement
jaunies
à
cause de leur mauvaise qualité. Un jour, il est en train d'écrire sur son cahier. Le professeur tape du poing sur son bureau, ce qui fait sursauter.
Il
lui dit
«
Allez donc, chez monsieur le proviseur, monsieur Chevalier. » Eric se lève.
Bien. Bonjour à tous.
Se lève, ferme son cahier. Cahier et sort de la classe. Longe le couloir. Prends les escaliers. Arrivé au premier, il va frapper à une porte. Entrez. Il entre. C'est une grande pièce meublée en bureau empire. Un homme est assis à son bureau. Il est mince, cheveux châtains, costume gris. Demande à Eric. Qu'est-ce que vous voulez? Eric lui dit. Le professeur m'a dit de venir vous voir. Approchez. Eric s'est approché. Vous êtes qui? Eric Chevalier. Le proviseur tape sur son ordinateur. Et lui dit. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait?
Je n'ai pas suivi les cours, le proviseur le dit.
Mon jeune ami, vous êtes distrait.
Vous ne faites rien. Pouvez-vous me dire pourquoi?
Parce que ce n'est pas moi.
Je vous demande, c'est de suivre vos cours et d'être présent au lieu de rêver. Il faut que vous ayez de meilleures notes. Vous devez vous rendre plus conscient de vos cours. Plus concerné par vos cours.
Eric lui répond, je ne le peux.
Pourquoi?
Parce que ce n'est pas moi.
Si ce n'est pas vous, qui c'est alors?
Un autre,
le proviseur lui dit. Eh bien, vous allez dire à cet autre de se tenir tranquille et de travailler. Autrement, je le mets à la porte. Allez, retournez à vos cours.
Et Eric quitte le bureau.
Et puis, un jour, Eric a fini son histoire. Il garde toujours sur lui le cahier comme un talisman. Les autres élèves se moquent toujours de lui.
Tu vas ?
Pendant les pauses, entre les cours, il s'assoit sur les marches d'escalier, près de la porte, et reste à rêver. Il se sent un peu vidé d'avoir fini d'écrire les Alcafar. Il se demande ce qu'il va pouvoir faire maintenant de sa vie. Son carnet dépasse, son cahier dépasse de la poche de son pantalon.
Dans un couloir,
en velours.
Des
tout à coup, un jeune blond dans les 18 ans passe en courant devant lui, le cogne et lui arrache son cahier. Mon cahier! L'autre court à l'autre bout de la cour. Eric lui court après. Mon cahier! Les autres voient le courir et rient. Le blond est arrivé vers une bande de jeunes. Ils sont 5. Il leur tend le cahier. Mon cahier!
C'est bon, j'étais dans un couloir, j'étais perdu, j'étais acheté des clubs, j'en avais plus.
Eric va vers eux, furieux. Mon cahier! Le blond le prend, le tend et dit à Eric, viens le prendre.
Bien, tu fais déjà les copines. Ouais, la classe est
l'air chouette
en plus.
Eric s'approche, l'autre recule. Et court. Les autres, ils courent après. Le blond lance le cahier à un autre. Puis le lance à un autre. Eric va de l'un à l'autre.
Ça pue, tout le monde va nous mater.
Donne-le-moi! Donne-le-moi!
Bon,
les autres jettent le cahier.
De l'un à l'autre. Bon, Marie, on va passer l'année ensemble.
Et cria Eric. Viens le chercher. Viens le chercher. Viens le chercher. Le blond attrape le cahier. Eric prend son élan. Il fonce sur ses jambes.
La classe est l'air chouette en plus.
Terre, la tête la première. Donne-moi mon cahier. L'autre tient fermement dans la main. Eric lui mord le bras pour lui faire lâcher. Aïe! Il lâche ce cahier. Les autres les entourent. Et seuls sortent de derrière Eric. Eric prend le cahier, se sent tout d'un coup soulevé. Que
se passe-t-il ?
C'est le surveillant. Eric lui dit, il m'a volé mon cahier. Le blond se redresse et dit, il m'a mordu. Surveillant dit, toi tu vas à l'infirmerie et je te confisque ton cahier pour avoir mordu ton camarade. Je vous en supplie, c'est mon cahier. Surveillant lâche Eric et lui dit, ton cahier est un torchon, tu t'es emporté comme un cochon. Comme punition, je te confisque en cahier. Estime-toi heureux de ne pas te faire renvoyer. Eric lui dit, j'aimerais mieux que vous me punissiez. Le surveillant, un jeune homme, grand, mince, certain, beau visage, dans les 22 ans, le quitte. Eric pleure.
Je comprends, mais la tronche. Mais je fais pas la tronche, j'avoue. Oh non, tu
Eric ne fait rien durant toute la suite de ses cours. Et le soir, en rentrant chez lui, il va s'enfermer dans sa chambre. Le surveillant, juste au moment où il va jeter le cahier dans la poubelle, se souvient de ce que lui a dit Eric. J'aimerais mieux, c'est que vous puissiez. Mais rendez-moi mon cahier.
T'avais dit que tu viendrais au cours de théâtre cette année.
Il met le cahier dans son cartable et quitte le lycée.
Non, pas moi, pas cette année. J'ai pas trop envie, puis en plus, il va falloir qu'on bosse avec le bac. Tout le monde se débine. C'est vraiment une année de merde. Moi, je m'en fous, j'irai demander aux premières et même aux secondes.
Il habite un vieil immeuble qui se trouve dans la rue derrière le lycée. L'immeuble est en face de la piscine qui est à côté du lycée. Bel immeuble sans âge, mystique, de 4 étages. Il entre dans l'allée. Allée sombre et sale, monte les escaliers de pierre, noirs et usés, pour aller jusqu'au 4e étage. Arrivé au 4e étage, il ouvre la porte de droite. Qui est un petit studio minable. Petit couloir, en face la pièce principale. C'est-à-dire avec coin cuisine. Évier en pierre beige, à côté de l'évier, une cuisinière à gaz, et à côté, un vieux réfrigérateur. Il y a une fenêtre
Dans un coin du mur, cette fenêtre donne sur la rue. Au milieu de la pièce, une table en bois et deux chaises. Contre mur, un lit en fer. Et en face, une armoire à deux portes. Et une autre porte qui donne au cabinet de toilette. Il y a du lino à terre. La tapisserie a été beige à fleurs. Il dit, c'est triste à en mourir. Le jeune quitte sa veste. Il a posé son cartable sur la table. Va au réfrigérateur. Il prend une canette de coca, un yaourt nature. Ferme le réfrigérateur. Prend une cuillère sur l'évier. Met tout ça sur la table. Il s'assoit bien confortablement. Il ouvre son cartable. Et voit le cahier. Il le prend et ferme le cartable. Et l'ouvre. J'ouvre le cahier. J'ai oublié de vous dire, c'est que le cahier est en couverture rouge. Le jeune homme se dit que si le jeune garçon tenait tellement ce cahier, c'est qu'il devait contenir quelque chose. On ne se bat pas, surtout à cause d'un vieux cahier de brouillon. Va à la première page, écrit au stylo bleu, d'une écriture nerveuse et irrégulière. Les lettres sont à peine fermées et c'est assez difficile à lire. Le papier, de mauvaise qualité, jauni par la lumière, transpiration, a vieilli prématurément. Le texte, à certains endroits, sont presque effacés. Les lettres sont tantôt grandes, tantôt petites, mal formées. Après hésitation, il arrive à déchiffrer le texte. C'est comment j'ai tué mon père. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne suis pas qui je suis. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas celui que l'on dit. Je suis tombé dans une famille comme ça, mais je n'ai rien à voir avec eux. J'ai un père, une mère, un oncle, une sœur, un frère. Je ne les connais pas. Je ne sais pas qui ils sont. Je vais avec eux comme au-delà d'eux, comme un fantôme. D'ailleurs, je me demande si je ne suis pas un fantôme ou quelque chose comme ça. Lorsqu'ils me parlent, je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Je crois qu'ils me voient, mais moi, je vois comme si ce n'était pas
de mon monde. Le plus souvent, je me demande ce que je fais avec eux. J'ai envie de fuir, de quitter cette vie qui n'est pas la mienne. Ils ne me ressemblent pas. Ils n'ont pas les mêmes goûts que moi. Je n'aime pas ma mère. Lorsqu'elle veut m'embrasser, j'ai un geste de recul. Il paraît que je suis un mauvais fils. Ma sœur est plus vieille que moi. Elle est bête et moche. Mais le plus moche, c'est mon oncle. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il soit mon oncle. Il me fait peur. J'ai toujours l'impression qu'il m'espionne. Mon oncle habite avec nous. Je fais des rêves étranges où je suis un autre, dans une autre vie, d'autres gens. J'ai envie d'être un autre. Si je pouvais changer de vie... Tout a commencé lorsque j'ai eu un accident de voiture avec mon père. J'ai reçu un coup dans la tête. Et là, pendant le moment, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé sans savoir qui j'étais. Maintenant, je ne le sais pas, mais les autres le savent pour moi. Ça leur suffit de savoir qui je suis, mais moi non. Je sais que je suis un autre. Mais qui? Peut-être suis-je quelqu'un de bien. Lorsque nous sommes réunis à table pour le repas, je n'aime pas les voir manger, ça me dégoûte. Cela prouve que je ne suis pas l'un des leurs. Ma mère s'habille mal, toujours en blouse nylon bleu, bigoudi dans les cheveux et le caddie pour le marché. C'est honte de cette femme qui se dit être ma mère. Mon père, en maillot de corps tricoté, lui, me fait honte. J'ai toujours mal à la tête. On me donne constamment des calmants. La nuit, mes rêves sont de plus en plus précis. Je vois une maison, une belle maison, avec un parc. L'intérieur est aussi très beau. Ma chambre est immense et toute claire, lumineuse. Il y a un homme assis dans un fauteuil près d'un bon feu de cheminée. Il a un visage doux, me sourit. Son sourire devient de plus en plus triste. Je pense aussi à une belle femme habillée de blanc. Elle me sourit et son sourire devient de plus en plus dur. Lorsque je sors de mes rêves, j'ai l'impression qu'ils sont plus vrais que ce que je vis. Je me sens triste et veux me retourner dans mes rêves. Au cours, au lycée, je ne fais rien. On me demande pourquoi. J'ai dit que c'était parce que ce n'était pas moi. Que je ne suis pas moi. Ils n'ont rien compris. Qui peut comprendre ce que je ressens, ce mal de ne pas être soi? Je suis prisonnier dans une carcasse qui n'est pas la mienne, au milieu de gens dont j'ai l'impression qu'ils me gardent comme des gardiens de prison. Je suis dans une prison qui n'a pas de barreaux. Qu'ai-je fait pour vivre une vie qui n'est pas la mienne? Je me tais, je ne leur dis pas ce que je ressens de peur qu'on me prenne pour un fou. J'ai décidé d'entrer dans ma vraie vie par l'intermédiaire de mes rêves. Alors je me bourre de barbiturique pour voir. J'ouvre la porte de ma vraie vie. Je suis dans mon lit. Je me réveille. Ma chambre est ma chambre. Je me lève. m'habille et sors de ma chambre pour aller dans la salle à manger retrouver mon père pour le petit déjeuner. Je m'assois en face de lui. Mon père me sourit. Je ne lui réponds pas. Je suis maussade, morose. Après avoir pris mon petit déjeuner, je me lève. Je m'apprête à le quitter. Il me demande où je vais. Je le quitte. Là, je suis dans la rue comme un somnambule et entre dans une allée. Je sonne à une porte. Elle est là, belle, lumineuse. Une vraie fée. Une vraie déesse. Je l'aime et vais chez elle, sans que mon père ne le sache. Elle m'a appris les plaisirs de l'amour. Elle m'a envoûté. Je suis aveuglé par elle. C'est mon soleil. Plus je la vois, puis plus je suis près d'elle. C'est une pieuvre. Elle vous enserre contre elle et vous suce le sang, l'essence. Vous ne savez plus. Je ne vois plus la vie que par elle. Que je dois la venger parce que mon père l'a violentée. Je suis furieux, je cours dans la rue, ivre de rage. Je rentre chez mon père. Nous disputons violemment et la dispute se transforme en bagarre. Et durant la bagarre, je donne un coup de couteau à mon père. La lame du couteau lui reste dans le ventre. Il tombe à terre. Je suis apeuré. Je me dis que j'ai tué mon père. Alors, je crois que je dois retourner vers la femme. Je retourne vers la femme. Je lui dis que j'ai tué mon père. Elle rit et me dit que c'est ce qu'elle voulait. Pour que je lui appartienne maintenant. Que mon âme lui appartienne. Je me rends compte que son sourire est diabolique, que ses yeux sont rouges de sang, que ce n'est pas une femme, mais une chose de Satan. J'ai tué mon père pour rien. Je suis un ignoble assassin. Je veux fuir. Elle me tient. Elle m'attire dans ses bras. Je vois du rouge, du jaune, du bleu, du vert. Tout tourne. Je la déteste. Je ne la veux plus. Je ne veux plus de ses baisers. Baisers de mort. Elle me dit qu'elle veut me donner le plaisir suprême. Elle m'attire contre elle. Veut me plaquer contre elle. Je crie. Non ! Rouge. Vert. Jaune. Je me réveille dans une chambre qui n'est pas la mienne. Ils sont là, derrière la porte. Je sais qu'ils me surveillent et que je ne peux pas me sauver. Je suis leur prisonnier. Je suis à eux. Ils disent que je dois aimer ma famille. Ma famille ? Ma famille ? Mais je sais que ce n'est pas ma famille, que j'ai été mise là parce que je dois être punie, parce que j'ai tué mon père. Mon père ? Et je n'en avais pas le droit. Dieu m'a puni en m'enfermant avec ces gens dans une autre famille que la mienne. Je dois être sage, très sage, être un fils modèle pour me faire pardonner mon crime. On ne tue pas son père. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Je la déteste. Je la tuerai un jour. J'aimerais sortir de ce monde d'où je suis. Je veux redevenir moi. Je veux rencontrer ces gens. Je ne suis pas celui qui disent que je suis un autre. Oui, un autre, je le sais. Un beau me faire oublier ce que j'étais ne peut pas. Et un jour, malgré moi, je tuerai mon père, celui-là. Pas mon vrai père, parce que je l'ai déjà tué. Je crois que pour vivre, il faut tuer son père, oui. Et je tuerai ma mère aussi, et toute ma famille, dans un bain de sang, et je renaîtrai. Je veux le tuer, je le tuerai, pour pouvoir vivre ma vie à moi. Et il continue la lecture. Une fois qu'il est fini, je vous ai présenté qu'un extrait de ce qu'il a lu. Ça aurait été trop long. La prochaine fois, en histoire à part, vous aurez l'histoire en entier d'une façon plus vivante. Donc, une fois qu'il est lu, il ferme le cahier. Il trouve qu'il a très bien écrit. Et met le cahier dans son cartable. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.